Bonsoir. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC malgré la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'égide du président américain Donald Trump jeudi 4 décembre 2025. Depuis ce week-end, des violents affrontements sont signalés dans le territoire d'Uvira, province du Sud Kivu. Certaines localités comme Luvungi sont passées entre les mains de la rébellion de la FCM-23 soutenue par le Rwanda. Face à cette escalade, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a vivement réagi lors de son allocution lundi 8 décembre 2025, dénonçant des violations flagrantes de l'accord fraîchement paraphé. L'accord de Washington, entériné sous les auspices des États-Unis, prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces étrangères et le désarmement des groupes armés. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons avec Willy Michiki, député national, élu de Walika Léonor Kivu, les cadres de l'Union sacrée de la nation. Willy Michiki, bonsoir.
Bonsoir, madame Mouskeli. Bonsoir aux auditrices et auditeurs qui nous suivent. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs.
Avec moi dans ce studio, Augustin Bissimoua, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti politique extra-parlementaire, parti de l'opposition, je précise. Bonsoir, Augustin Bissimoua.
Bonsoir, madame. Salut à tous les auditeurs. Salut également à l'honorable Willy Michiki, que je connais très bien.
Erigan Miviri, qui est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, Jacques Ansigle. Erigan Miviri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Bukavu, Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, malgré la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda intervenu le 4 décembre à Washington aux États-Unis, la situation sur les lignes des front demeure très préoccupante. Dans la province du Sud Kivu, la cité de Luvungi est tombée aux mains des rebelles de la FCM-23, déclenchant un nouvel exode massif des populations. Face à cette escalade, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a vivement réagi lors de son allocution de lundi devant le Congrès, dénonçant des violations flagrantes de l'accord fraîchement paraphé. Enoch Katumbi.
L'accord de Washington, entériné sous l'égide des États-Unis, prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces étrangères, le désarmement des groupes armés et le retour sécurisé des populations déplacées. Il s'inscrit dans la volonté de pacifier les provinces de l'Est, longtemps déstabilisées par des conflits récurrents et l'activisme de groupes armés comme la FCM-23. Mais quelques heures seulement après la signature, la situation sur le terrain reste instable. La cité de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, est tombée lundi sans combat après le repli stratégique des FARDC. À leur arrivée, les rebelles ont trouvé une localité presque entièrement vidée de sa population, partie s'y réfugier plus au sud. Dans la foulée, un nouveau chef de la cité a été désigné par la FCM-23, l'équipe dirigeante locale ayant fui. Les FARDC et les Wazalendo tentent de consolider certaines positions. Les violences et la psychose restent palpables dans certaines zones, dont Uvira, témoignant du décalage entre engagement diplomatique et situation réelle sur le terrain. Face à cette situation, le président Félix Tshisekedi, dans son adresse à la nation d'hier, 8 décembre, a fustigé les violations de l'accord par la partie rwandaise et rappeler que la souveraineté de la RDC doit être respectée. Selon lui, tant que les attaques se poursuivent et que les civils sont menacés, le processus de paix ne peut être considéré comme effectif.
Merci Enoch Katumbi. Willy Michiki, député national élu de Walikale, au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC malgré la signature d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa, accord qui devait garantir un cessez-le-feu après sa signature. Peut-on parler selon vous, de l'échec de ce texte paraphé à Washington entre Tshisekedi, par Tshisekedi et Paul Kagame?
Oui, on ne peut pas parler de l'échec. C'était prévisible. Vous savez, c'est pas la première fois. Je rappelle ici, lorsque Habyarimana venait de signer un accord de paix accompagné de son homologue burundais en Tanzanie, ils sont rentrés, son avion a été a connu un crash, on l'a abattu, et donc c'était même le début des génocides. Donc ce sont les méthodes de l'ennemi, talk and fight, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler et à discuter. Donc on avait déjà alerté notre gouvernement et notamment les responsables pour être aux aguets à la veille de la signature de l'accord. Puisqu'aujourd'hui, ces accords signés à Washington n'arrangent pas les Rwandais. Les Rwandais sont perdants, surtout l'accord de coopération stratégique avec les États-Unis. Un accord de ce genre n'a jamais été signé en Afrique. C'est ce genre d'accords qui ont permis aujourd'hui à avoir la stabilité dans les pays arabes tels que les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite et consorts. Donc il fallait à tout prix déstabiliser avant l'arrivée des investisseurs américains, parce qu'il est prévu dans l'accord qu'il y aura dans les 30 jours, on devait deviner des sites où les Américains devraient se déployer, et même le département du Trésor américain a déjà donné le quitus pour assurer tous les investissements ici, et ils ont aussi et souligné dans l'accord qu'il fallait absolument sécuriser les investissements américains ici. Le préalable pour nous, c'était d'abord de signer l'accord de paix avec les Rwandais. Quoi qu'on n'y croyait pas beaucoup, mais nous comptions plus sur l'accord de coopération stratégique. Et l'accord sur l'intégration régionale devrait intervenir après que l'accord de paix soit matérialisé. Aujourd'hui, la HCM23 s'est dû ne pas être concernée par cet accord de Washington, alors que nous savons très bien que c'est le Rwanda qui est en train de tirer des ficelles. La preuve, le samedi passé, lorsqu'on a bombardé l'antenne Vodacom à Kamanyola, c'est les bombes sont venues bel et bien de Bugarama, qui est la province voisine du côté rwandais. Et nous avons constaté, en fait, c'est vraiment une guerre psychologique, parce que en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu des troupes AFC-M23 qui ont attaqué les nôtres. Ils ont monté des jeunes gens, il y a Joseph Kabila et ses hommes qui ont donné de l'argent aux jeunes gens qui sont corrompus.
Joseph Kabila.
Les gens-là prétendaient faire semblant de fuir pour quitter Kamanyola, venir vers Kogota, vers Sang, vers Lubungi. Ils emportaient avec eux des grenades, des bombes, et lorsqu'ils les faisaient éclater, on donnait l'impression comme si l'ennemi était dans la ville. C'est ce qui s'est passé à Rubungi. Il n'y a pas eu vraiment de combat. Partout,
mais
on dirait
qu'il n'y a pas eu de combat parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucune armée, ni à part des Seigneurs Wazalendo. La cité était vide.
Non, justement, c'est cette paire-là qui a fait croire que l'ennemi était entré dans les cités, que ce soit à Moutaroule, que ce soit... C'est la même méthode, jusqu'à la porte de
Vira. Et c'est pourquoi les autres sont partis, je veux dire l'armée, et les Wazalendo sans preuve que l'ennemi était dans la ville, ils ont décidé de partir.
Non, le problème d'abord, c'est que c'était d'abord la confiance entre les Wazalendo et les Devardes. Nous n'avons jamais cessé de le dire qu'il fallait d'abord et renforcer cette confiance-là. Ce sont des troupes qui se sont toujours bâties. Et ces gens-là sont très malins. Ils connaissent les leaders des communautés. Ils ont utilisé les personnalités influentes pour faire croire aux Wazalendo que non, ils étaient trahis. C'est ça l'impression. Alors il y a eu une confusion totale. Les FRDC ont commencé à tuer en se repliant. Mais en réalité, l'affaire n'est pas encore perdue. On peut encore aujourd'hui réparer les choses. Le malheur, c'est quoi ça dans cette histoire? C'est qu'on n'écoute pas les leaders d'opinion. Nous sommes des élus du peuple. Notre mandat est national. Moi, je vous dis que, Madame Kelly, depuis jeudi, je suis en contact permanent avec les VDP qui étaient à Kamanyola, qui se sont repliés à Kakogota. Au jour, on a fait des alertes partout, mais on n'était pas écouté. Cette stratégie, nous l'avions déjà dénoncée.
Écoutez par qui devait vous écouter?
Mais nous sommes dans la majorité. Je regrette beaucoup parce que nous sommes à l'Union Sacrée. En principe, l'Union Sacrée, au lieu de faire seulement des réunions, des mobilisations, des tralala, on devrait faire des réunions de stratégie. Chacun a quand même des informations à donner à notre armée. Nous avons une armée qui est professionnelle. Nous avons déjà dénoncé depuis vendredi le fait que les militaires qui quittaient le front, qu'on a voulu remplacer, ne voulaient pas être remplacés. On a demandé que non, qu'on ne les replie pas à Uvira, qu'on puisse les envoyer ailleurs et amener de nouvelles troupes fraîches. On n'a pas été écoutés. Donc, nous sommes dans la majorité, madame. Donc, je dois dire que quand même que rien n'est encore perdu. Nous pouvons encore récupérer la situation. Mais nous regrettons seulement qu'il n'y a pas consultation des élus du peuple. Il n'y a pas consultation des leaders des communautés.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le Congo, oui, la RDC a signé l'accord de paix sans trop y croire. Alors, on l'a fait juste pour plaire au président américain Donald Trump?
Non, pas du tout. En fait, nous connaissons les méthodes rwandaises, nous connaissons l'ennemi. Le Rwanda n'a jamais été pour une paix durable. Le Rwanda a des visées et de pouvoir juste mettre la main basse sur nos ressources naturelles. Donc, comme ils nous traitaient, nous, d'être exigeants. Par exemple, toutes les conditions qu'on a données, ils s'en servaient pour dire que voilà, le gouvernement congolais est extrémiste. Nous avons voulu montrer, face à la bonne foi de Donald Trump et de son gouvernement, que nous étions nous étions disposés à signer un vrai, véritable de paix, comme le chef de l'État n'a jamais cessé de le dire, la paix des braves. Et vous allez constater que dans l'accord de paix avec les Rwandais, dans les préambules, il est bien stipulé le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, le retrait des troupes étrangères, même le respect et l'application de la résolution 2773. C'est bien dit. Même dans les premiers points, lorsqu'on parle de l'intégration. Mais nous, puisqu'on ne pouvait pas signer l'accord de coopération stratégique avec les États-Unis sans signer l'accord de paix, le gouvernement américain devrait s'assurer que nous sommes engagés. Et quand vous lisez cet accord-là, il est dit que l'accord entre en fonction immédiatement, aussitôt la signature. Donc aujourd'hui, en face du monde, les Américains qui sont les parrains de cet accord, je pense qu'ils vont tirer les conséquences, qu'ils vont nous donner raison. Et la communauté internationale a vu qu'effectivement, le Rwanda n'a pas l'intention d'avoir la paix avec nous.
Merci.
Même les compatriotes qui pensaient aujourd'hui qu'il faut aller au dialogue, je crois qu'ils ont compris. Lorsque Kagame lui-même a dit que c'est lui qui contrôle Goma, Bukavu, Kavumu. Donc c'est pour dire que même le dialogue qu'on devrait faire avec nos compatriotes n'avait pas de sens. Il faut dialoguer avec Kagame lui-même. Il a dit non, I have some issues to discuss with you. You need to secure me. Il a dit,
merci.
J'ai des choses, moi, que vous devez me garantir. Voilà donc, ça nous donne raison aujourd'hui que le président Tshisekedi était dans les bons. Il se sait toujours méfier de Kagame. Et voilà, la preuve est là.
Merci beaucoup, Willy Michiki. Vous êtes très, très nombreux à suivre cette émission. Serge Moulumba, depuis Lubumbashi. John Mamwenge, vous êtes à Butembo, Nord Kivu. John Angui, vous nous suivez depuis Kampala, en Ouganda. Pascal Kialima, vous êtes à Butembo. Joshua, vous êtes à Bujumbura. Échance Moussaka, vous nous suivez depuis la Tanzanie. Alors, Augustin Bissimo, vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti de l'opposition extra-parlementaire. Quelle lecture vous faites, vous, de la situation? On a signé l'accord, les Congolais se sont dit enfin la paix au pays, et quelques heures seulement après la signature de cet accord, les combats se sont intensifiés dans le territoire d'Uvira, au sud de Kivu. Certaines localités sont même tombées entre les mains de la rébellion de la FCM 23. Votre lecture?
Oui, merci beaucoup madame pour la parole, et beaucoup plus pour l'invitation confiée au MDVC. Et donc, d'entrée de jeu, je voudrais dire ici que c'était prévisible que les combats se poursuivent, parce qu'il ne faut pas que nous perdions de vue que le processus est engagé à deux niveaux. Et donc, étant donné que le conflit est armé, et il est national, mais aussi internationalisé, à partir du moment où vous y avez, n'est-ce pas, la notion de l'État qui s'invite, ou des États qui s'invitent. Et donc nous sommes en face d'un conflit entre deux États et un conflit interne qui engage l'État et un mouvement armé interne. C'est à ce niveau-là qu'on a accepté qu'il y ait...
Mouvement armé interne soutenu par un pays étranger.
Bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on a fait deux processus. C'est-à-dire qu'on a le processus de Washington qui engage les deux États en bilatéral. Il y a un processus de Doha qui engage le M23, n'est-ce pas, et le gouvernement. Et donc, l'accord qui a été signé à Washington ne concerne pas jusque-là, n'est-ce pas, le M23. Ça concerne seulement les deux États. Ce qui fait que après avoir signé également l'accord cadre à Doha, évidemment cet accord cadre avait appelé au cessez-le-feu, demandé à ce que les parties puissent d'abord s'abstenir des escalades en attendant qu'on ait la paix ou l'accord de paix à Doha. Mais connaissant très bien que tous les cessez-le-feu dans lesquels nous nous étions toujours engagés ont toujours accouché des souris puantes, eh bien on devrait s'attendre à cela. Nous ne sommes pas surpris. La surprise, c'est à quel niveau ? C'est au niveau où nous avons évidemment un gouvernement qui n'entend personne, comme le dit l'honorable Willy Mishiki. Je pense sincèrement qu'on finira par me donner raison, moi, Augustin Bissimois, un petit-fils d'Adam. Parce que je disais dans votre émission la fois passée, Kelly, que vous avez l'Union sacrée composée de plus de 500 partis politiques. Et je mettais quiconque au défi que ce regroupement, cette plateforme ne s'est jamais réunie pour parler de la paix. Seulement, ils se réunissent uniquement pour mobiliser les gens à soutenir les chefs de l'État. Rien que ça. Et voilà, aujourd'hui, je crois que ça a été dit par une bouche autorisée, Willy Mishiki, qui est un honorable que je connais très bien, et qui n'est pas un petit dans ce pays. Et donc, lorsqu'il vous dit que l'Union sacrée, en tout cas, ne se réunit pas pour ces questions, eh bien, c'est une vérité et c'est déplorable. Et ce qui nous tient très mal au cœur, Madame Kelly, c'est que lorsqu'on a signé l'accord, nous avons vu la même Union sacrée convoquée, n'est-ce pas, à la fête, invitée à ce que les gens célèbrent la paix sur papier. Et pendant qu'elle fêtait, nous, de l'Est, nous plairions nos morts, comme si nous étions dans deux États différents, Madame. Et l'on ne peut pas comprendre qu'une famille politique comme ça se mette à fêter pendant que certains compatriotes sont en train de pleurer les morts dans la partie Est, ainsi qu'au au niveau de Kwamutu, dans les mines tombées. Mais pendant ce temps, les gens fêtent. Le débat, c'est à quel niveau, madame? Le débat se situe au niveau où cet accord de Washington mérite très bien une grande attention, surtout au niveau, n'est-ce pas, de la phase de désengagement. Mm-hmm. Parce que, je l'ai dit la fois passée, si les parties prenantes n'ont pas réussi à clarifier l'ambiguïté qui règne dans cet accord, eh bien, on va attendre longtemps et les parties vont se tirer dessus, croyant que c'est X qui a violé ou c'est Y qui a violé.
D'abord, alors, l'ambiguïté se situe à quel niveau, Augustin?
L'ambiguïté, c'est au niveau où le Rwanda, d'abord, a été supérieur par rapport à nos négociateurs. Il fait croire d'abord qu'il n'est plus agresseur. Ça, c'est la première victoire de ces pays agresseurs, ces pays que j'appelle criminels. Il a réussi à faire comprendre qu'il n'est plus agresseur, mais plutôt partenaire fiable sur qui on peut compter. Deux, il a réussi à faire croire qu'il n'est pas venu nous agresser, qu'il est dans notre pays pour poser des mesures défensives. Et donc, il est là, estimant que c'est parce qu'il y a des effets de l'air, c'est pour cela qu'il est ici, mais il ne nous a pas agressés. Et dans l'accord, nos négociateurs ont accepté cela et ils ont signé, accepté que, en réalité, ce sont des mesures défensives. Le Rwanda est là, il ne nous agresse pas, il vient juste poser ses mesures défensives contre les FDLR. Et cela étant, le facilitateur ayant compris cela, a dit, bon, si le conflit est à ce niveau-là, c'est que la RDC doit s'engager à quoi? À neutraliser complètement les FDLR. Et le Rwanda s'engage à faire quoi? À retirer ces troupes, c'est ce qu'on appelle lever des mesures défensives. Et donc, quand vous analysez très bien, interroger la page, enfin, le chapitre qui parle des missions. La mission de la RDC, il y en a quatre. Un, neutraliser les FDLR. Et les spécialistes savent qu'est-ce qu'on appelle neutraliser. Deux, favoriser le rapatriement des membres de FDLR au Rwanda. C'est la RDC qui doit favoriser les rapatriements. 3. Garantir les conditions d'une paix
et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Ça, c'est la RDC qui s'est chargée, lui, de garantir les conditions de paix. 4. Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Et le Rwanda s'engage à quoi, madame ? Désengager les forces, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda. Deuxième mission, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés. Et donc, ça veut dire que la RDC, lorsqu'elle aura fini à neutraliser ceux qui auront échappé et qui auront accepté se rendre, la RDC les prend, les amène au Rwanda, et le Rwanda fera quoi ? Les réintègre. Mais maintenant, lorsque vous allez au niveau de conduite des opérations, vous avez 5. Et la première opération, neutralisation des FDLR et de ses groupes supplétifs. Et donc, vous avez maintenant levé des mesures à la 4e position. Quelle est l'ambiguïté par là ? L'ambiguïté est que on n'a pas clarifié à quel moment les mesures défensives devraient être élevées. Est-ce que c'est après neutralisation des groupes armés, plutôt de FDLR ? Est-ce que c'est après signature de cet accord ? C'est à ce niveau-là que je disais depuis très longtemps que les négociateurs de la RDC ont trahi la nation et il faut qu'on se
dise. Donc vous y voyez un peu des concessions dangereuses dans cet accord de paix.
En effet, parce que dans les cours de relations internationales et même les cours de en fait, on vous dit que l'accord ne doit pas être écrit avec des termes qui présentent une certaine ambiguïté. Mais ici, il se pose un souci, et c'est ce souci-là que l'ennemi pourra utiliser pour vouloir dire « je suis encore là tant qu'on n'aura pas neutralisé les FDLR ». Et donc, madame, qui est-ce qui va neutraliser ? C'est le gouvernement, c'est la RDC, à travers les FARDC. Nous sommes au niveau où on donne une charge supplémentaire aux FARDC, parce que cet accord n'engage pas le M23 à l'AFC. L'AFC continue à nous battre, et donc les FARDC sont obligés désormais à ouvrir deux grands fronts. Le premier front, c'est contre le M23 qui continue parce qu'il attend l'accord de paix. Le deuxième front, c'est que les FARDC désormais doivent ouvrir le front contre les FDLR. Et là, madame, avec quels moyens ? Eh bien, par rapport aux moyens, on dit ceci.
Alors, on va revenir sur les moyens, juste le temps de donner la parole à Rigen Miviri, qui est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. Mais avant de vous donner la parole, Rigen Miviri, on va prendre quelques réactions. Innocent Bouendoua, vous nous suivez depuis Walikale Nord Kivu. Pour vous, rien n'est perdu. Si on réforme notre armée, on change des stratégie défensive à l'offensive, le commandement sur la ligne des fronts est décevant. La paix soit se gagne, soit on la négocie avec le repli. On ira jusqu'à Kinshasa si rien ne fait. Alors, Rigel Miviri, comment vous analysez cette situation?
Déjà, il faut dire qu'il y a deux réalités parallèles. Il y a ce qui se passe à Washington, l'autosatisfaction au retour de Washington, et il y a la réalité sur le terrain. Pendant que je suis en train de vous parler ici, il y a deux choses qui se passent à Uvira. Je ne voudrais pas être celui qui annonce des mauvaises nouvelles, mais tout le monde sait ce qui se passe à Uvira. Donc, ce qui a été signé à Washington ne reflète pas le force à présence ou la réalité sur le terrain. Et ça, c'est notamment parce que pendant trois ans, on a passé le temps à croire que le monde croit encore au droit international. C'est dommage parce que le droit international est de notre côté, c'est vrai. Le Congo est agressé, c'est vrai, c'est une réalité. C'est un bon diagnostic. Oui, mais en termes de solutions, il ne s'agit pas tout simplement d'aller dire que le Rwanda nous agresse, mais c'est de stopper cette agression. Ce qui m'amène à la deuxième démarche qui a été faite les trois dernières années, qui a été celle de faire le front militaire. Mais le front militaire n'a pas réussi. Il a échoué pour beaucoup de raisons sur lesquelles mes co-débatteurs sont revenus. Alors, ça nous amène à nous dire c'est quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il y a une voie de sortie? Est-ce qu'il est possible de se dire qu'il y aura un avenir, il y aura une paix un jour? Voilà. Moi, je pense clairement que le processus diplomatique, si le minimum à terme d'attente des populations, à terme de ce que les négociateurs pouvaient quand même avoir et de Doha et de Washington, c'est de geler le front. Mais ça, ne fût-ce que ça, n'a pas été fait. Cette fois-ci, on a encore l'opportunité de geler le front à partir de là où il est aujourd'hui. Il y a des militaires aujourd'hui qui sont en train de quitter la ville d'Uvira. Il y a des mouvements vers la ville d'Uvira. Est-ce que cette fois-ci, en tant que nation, on peut se dire au moins on le gèle là-bas et qu'on cherche des solutions à partir de là? On se rassure que on peut aller sur d'autres questions, mais au moins il n'y a pas de bruit de bottes. Ça n'avance pas au-delà de là où ils sont. Je pense que ça devait être ça, d'abord la priorité, et ensuite on va sur ce qui est structurel. Parce que ce qui est structurel, c'est ce qui va protéger le reste du pays. Ce qui est structurel, c'est ce qui va faire en sorte que ceux qui sont en train de nous agresser ne puissent pas avoir de prétexte. Ceux qui sont en train de nous agresser cessent de puiser dans nos problèmes internes pour trouver du grain à moudre. Et donc, c'est peut-être ça encore mon message aujourd'hui. Je pense que il faut geler le front. Il faut se rassurer que, et il faut dire à la population la vérité, ça ne va pas bien sur la ligne de front. Mais on se rassure que cette fois-ci, toutes les démarches diplomatiques qu'il y a, Doha, Washington, au moins réussi à ne fût-ce que geler le front là où il est, le conflit là où il est. Et puis ensuite, on fait en sorte que l'on puisse être capable de créer un environnement serein où toutes les parties peuvent se parler. L'opposition politique, l'opposition armée, à l'interne et au-delà de ce qui est en train d'être fait à l'externe. Parce que vous ne pouvez pas venir ici et nous dire que vous ne faites pas confiance à la personne avec qui vous êtes en train de parler depuis 3 ans et que malgré ça, on va continuer à considérer que ça sera toujours ça la solution. Donc, je pense qu'on doit s'arrêter à un moment et se dire qu'on va geler d'abord les fronts, on va travailler sur les problèmes structuraux et on va essayer de repenser ce pays au-delà des tendances politiques. Parce qu'encore une fois, que ça soit même sous des départs si délicats comme ça, c'est comme s'il y a des gens qui pensent qu'il y a d'autres personnes qui sont contentes sur cette réalité qui nous arrive. Voilà d'emblée ce que je peux dire.
Alors merci Adrien Beya Anderson qui nous suit depuis la commune de Gombe ici à Kinshasa. Dit ceci qui est ce président qui accepterait que son peuple soit humilié jusqu'à ce niveau. Il y a péril en la demeure. Franck, qui nous suit depuis l'IMETE, pense qu'on aurait dû mettre en place des mécanismes de vérification avant la signature de l'accord pour empêcher les violations immédiates. Voilà, c'est Franck qui nous écrit depuis l'IMETE. Alors, le standard est ouvert, on va écouter ses auditeurs qui sont en ligne, qui veulent intervenir, direction Bukavu, Sud Kivu, pour écouter Mobolé. Je pense, Mobolé, vous êtes en ligne.
C'est Fadili Mobolé depuis la ville de Bukavu. Tout analyste intelligent qui avait suivi avec attention, soutenu le discours du président de la République, comprend déjà que l'accord de Washington était mort, né. Et cela, c'est parce que cet accord n'est pas accompagné par de mesures coercitives. On comprendrait si l'accord était accompagné par de mesures coercitives et que le parti jusqu'à présent ne témoigne pas de bonne foi, cet accord sera toujours violé et le parti ne va pas s'entendre parce que ce qu'on voit sur le terrain, ça ne rime pas avec l'accord signé à Washington.
Willy Michiki, réaction.
Oui, au fait, il faut quand même faire la nette distinction entre l'accord signé avec les Rwandais pour une paix durable dans la sous-région et l'accord, les autres accords, notamment l'accord d'intégration, l'accord de sécurité et l'accord de coopération stratégique. En fait, beaucoup de gens ne savent pas que l'accord qui a été signé le 4 décembre est différent de l'accord de la déclaration des principes signé entre les deux ministres des Affaires étrangères. On parle là-bas, par exemple, de Westerler, non, là l'accord est clair, là on parle de groupes non étatiques. Aucun État ne peut soutenir un groupe armé où on dit clairement que les groupes non étatiques seront intégrés dans les FRDC et la PNC, mais il y a quand même une assise sur il faut quand même qu'on prenne en compte les critères de professionnalisme, de compétences, d'expertise, de moralité, et même qu'on vérifie leur nationalité. C'est bien écrit à cet accord. Et tout ça, bien sûr, c'est le gouvernement de la RDC qui devrait le faire, puisque c'est le gouvernement de la RDC qui est l'unique habileté à procéder à ces recrutements-là. Mais lorsque aujourd'hui on cherche à croire que les Américains auraient fermé les yeux, tu sais ce qui se passe. Non, d'ailleurs, je rappelle ici que le gouvernement américain a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une réunion d'urgence sur ce qui se passe ici, puisque la violation du Rwanda est là, est matérielle. C'est à nous de documenter. Nous avons aujourd'hui, par exemple, de vidéos de la bombe qui quitte Bugarama pour tomber sur et Kamagnola, sur l'antenne de Vodacom. Nous avons aujourd'hui des bombes larguées depuis Bunagana et Bugarama pour tomber à Sangue, pour tomber à Luvungi. Donc ce n'est pas un secret, c'est à nous maintenant de documenter ça aujourd'hui, que maintenant la communauté internationale qui est parraine de cet accord puisse atteindre. Je crois qu'il n'y a plus de temps aujourd'hui de dire non, on attend, non, non. Et c'est là où moi aussi je déplore notre attitude, puisque nous sommes restés à la défensive, au cessez le feu, alors que les autres n'ont jamais un seul temps observé le cessez le feu. Et lorsque on parle, c'est comme ça que nous insistions beaucoup dès le départ qu'on puisse impliquer les VDP. Les Ouattarais sont les premiers sur la ligne de front. Les Ouattarais n'ont pas été associés ni à Doha, ni à Washington. Et là, c'est vraiment regrettable, alors qu'ils étaient retenus dans le processus de Nairobi, qui consistait à discuter entre, à favoriser les discussions entre les gouvernements de la République et les groupes non étatiques, dont les M23 AFC. Mais curieusement, d'un coup, par baguette magique, on a mis de côté les Ouattarais, disant qu'ils seraient des simples types de gouvernement, pour discuter, alors que c'est eux qui sont sur le front. Donc moi, je pense que nous n'avons pas aujourd'hui à paniquer, il n'y a pas péril en demain. Je crois que nous pouvons rapidement récupérer la situation. C'est que seulement je demande qu'il faudrait que ceux-là qui dirigent l'armée, les opérations militaires, ceux-là qui décident sur le front militaire, il faudrait qu'ils constituent aussi les leaders d'opinion. La meilleure armée au monde, c'est la population. Or, les leaders communautaires, les leaders locaux ne sont pas associés. Et c'est là où est passé justement l'agresseur. L'ennemi a utilisé les locaux, les jeunes gens, pour les utiliser et créer la panique dans notre camp et nous faire croire que l'ennemi aurait occupé des villes alors que ce n'était pas le cas. Les bombes là ne sont jamais venues. D'ailleurs, les dernières bombes efficaces, vous regardez ce qui s'est passé à Sangue, Moutoural, ce sont les jeunes gens des Congolais qu'on a achetés, qu'on a donné, on me parle de 5 000 $, 10 000 $ certains, et on les a attrapés avec des bombes. Et puis, moi, je continue à croire qu'aujourd'hui, nous allons, je suis optimiste que nous allons gagner cette guerre.
Merci.
Mais ce qu'il faut, c'est, il faut que nous changions. Mais il faudrait aussi que ceux-là qui sont en charge de sécurité, ceux qui sont en charge de diriger les opérations militaires, devraient quand même assumer leurs responsabilités en démissionnant lorsqu'ils n'arrivent pas à répondre aux attentes de notre peuple. Il ne faut pas que les chefs de l'État limogent, non. Ils doivent être conscients que nous avons échoué et que nous devons assumer nos responsabilités. C'est ça aussi la démocratie.
Merci. Jackson Kisangani depuis Kinshasa. Le gouvernement congolais ne peut pas tout miser sur la diplomatie. Pendant que Kinshasa négocie, rien ne garantit que l'ennemi ne traite pas lui aussi avec les mêmes partenaires. La RDC doit donc garder une posture ferme, renforcer ses capacités de défense et protéger son territoire tout en menant ses démarches diplomatiques. La paix se négocie, mais elle se défend aussi sur le point de vue de Jackson Kisangani. Enoch Bambuta, si l'on avait écouté les conseils d'Adolphe Muzito, on n'allait jamais arriver à ce niveau. Attaquer directement le Rwanda est la seule solution. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Bounia dans la province de l'Ituri.
Allons, Stépiens, merveille, je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. La persistance des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré les efforts diplomatiques récents, soulève de vives inquiétudes quant à la véritable volonté de paix des acteurs concernés. Loin d'être une simple formalité, l'accord signé semble déjà à périr face à la réalité du trait où des attaques sont encore signalées. Les enjeux géopolitiques sous-jacents, notamment les soutiens externes à des groupes armés, rendent la situation encore plus préoccupante. Cette discordance entre les intentions affichées et les actions sur le terrain laisse entrevoir un scepticisme grandissant sur la possibilité d'une résolution durable du conflit.
Alors, brève réaction, Augustin Bissimoua.
Oui, bon, je voudrais d'abord, je ne sais pas quand l'honorable Louis Michiki a dit que l'accord qui a été signé les quatre n'est pas celui qui a été signé par les deux ministres. Je ne sais pas, il fait allusion à quoi. Parce que le chef de l'État est parti entériner l'accord des principes.
Mm-hmm.
Les deux gouvernements ont négocié un accord. Il revenait au président de venir,
entériner.
Ouais. Et donc, nous dire que c'était notre accord qui a été signé, je crois qu'il y a un problème. Ça signifie d'abord que le gouvernement est parti négocier un accord et ils sont partis signer un autre que nous ne connaissons pas.
En tout cas, le porte-parole du gouvernement, lors du point de presse, avait dit que les chefs d'État sont là pour entériner l'accord signé par le ministre des Affaires étrangères.
Alors peut-être que l'honorable Willy Michiki a un autre élément à nous donner par rapport à ça, mais je crois sincèrement qu'il y a un problème très sérieux de la communication au niveau de notre pays. Et donc, madame, j'étais en train de dire que, d'abord, comment on en est arrivé là? Parce qu'il faut que le peuple congolais soit capable maintenant que l'on puisse regarder dans les yeux et que l'on demande le compte à qui il faut. Parce que nous sommes sûrs que le président public est notre chef de l'État à nous tous. Nous sommes de ceux-là qui croient qu'il a reçu mandat du peuple de protéger, pas de protéger, de maintenir l'intégrité du territoire national. Mais il n'a pas réussi à le maintenir, madame. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Parce que plus nous tous, nous nous liguons, pour l'applaudir et lui dire il est dans les bons, nous allons perdre ce pays, madame. Nous devons nous distinguer, être de ceux-là qui savent aussi lui dire excellence, les choses ne marchent pas, vous avez échoué à ce niveau ici. Parce que l'article 74, madame, il lui donne le seul pouvoir qu'il a, c'est celui de maintenir l'intégrité de tout un national. Mais il ne réussit pas à le maintenir. Et l'on ne veut pas savoir comment on arrive à ce niveau-là. Willy Michiki a dit, bon voilà, l'Amérique va venir, tout ça, et voilà, le Rwanda a peur. C'est-à-dire que nous sommes dans cette situation où quand nous allions à l'école, des petits-enfants, lorsque un grand t'attaque, tu vas vers le grand
pour dire, écoutez, protège-moi. Mais c'est une bonne chose, mais qu'on se pose des questions, comment on en est arrivé là? On en est arrivé parce que nous n'avons pas réussi à organiser notre armée.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour stopper cette avancée des rebelles et éviter tous ces déplacements des populations qui ne savent plus où passer la nuit, qui sont en train d'errer de localité en localité? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Madame, il y a un auditeur qui vous dit ici qu'il faut qu'on fasse attention parce que on pense que les États-Unis, c'est pour nous-mêmes. Et dans la tête du régime en place, on pense que lorsqu'on va vers un partenaire, ce partenaire n'a que eux comme partenaire. Ils oublient que au Rwanda, le Qatar par exemple, a beaucoup d'investissements au Rwanda plus qu'au Congo. Or, dans les relations internationales, ce sont les intérêts qui comptent. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que les États-Unis a beaucoup d'investissements en RDC qu'au Rwanda? Et donc, tout en mettant en place la voie diplomatique, on doit réfléchir et rentrer, c'est dire, nous devons renforcer la cohésion interne. Et cette cohésion nationale est néglige, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, sincèrement, que tant que nous sommes divisés, comme l'a toujours dit le docteur Justin Mudekereza, un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la fissure qu'il y a entre la classe politique congolaise peut affecter dangereusement notre armée? Parce que nous sommes au niveau où nous n'avons pas encore une armée républicaine. Il faut qu'on se le dise comme ça. On a encore une armée où vous avez tel général qui croit en tel. Et malheureusement, c'est ça le cas. On ne peut pas se voiler de face. Et tant qu'on n'a pas dit le même langage, il y aura des sabotages en sabotage au sein de l'armée. Et on va pleurnicher et dire il y a infiltration. Madame, ce n'est pas un problème d'infiltration parce que toutes les armées du monde sont infiltrées. C'est un problème d'organisation, de commandement et d'impulsion. Et c'est ça le débat. C'est-à-dire nous sommes au niveau où l'avion n'a pas de pilote, nous sommes au niveau où le projet n'a pas de coordination. C'est ça le débat.
Il y a un pilote, le président de la République
est
là.
Mais non, madame, vous avez suivi quand il a dit hier devant le Parlement, le Congrès, il vous dit que la capitale est devenue trop sale. Il se plaint comme moi, Augustin Bissi, moi petit-fils d'Adam. Il se plaint comme Willy Michi qui se plaint aussi. Ça veut dire que nous sommes au niveau où le capitaine est déboussolé, il a perdu la boussole.
Le chef doit prendre des décisions fortes, doit sanctionner.
Et en effet, au-delà de sanctionner, il faut aujourd'hui qu'on comprenne que pour mettre fin à la guerre, il faut deux voies. La première, c'est la voie militaire qui a échoué, qu'on se le dise sincèrement. La deuxième, c'est la voie des négociations. Mais maintenant, cette négociation-là, il faut qu'elle se fasse à différents niveaux. Pourquoi on néglige les dialogues internes? On privilégie dialoguer avec l'agresseur, mais on ne veut pas dialoguer avec ses frères au Congo. Quel est le débat? Et on préfère plutôt d'ailleurs vouloir tuer les opposants, comme ça a été le cas le samedi où Jean-Marc Kabound a raté, n'est-ce pas, à l'attentat qui lui était tendu.
Merci.
Parce qu'on tenait à tuer Jean-Marc Kabound.
Merci, Augustin Bissimoua. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
C'est Elvis Sacker de la ville de Kinshasa. Cette situation témoigne de la volonté du Rwanda de ne pas respecter les accords de Washington. Car au lendemain de l'entérinement des accords, des témoignages du soutien du Rwanda à l'AFCM-23 en logistique, hommes et munitions ont été rapportés. La RDC ne doit pas ignorer que le système international est un système de peur. Un système compétitif où les États ont peur d'être attaqués. Ont peur de laisser entrevoir la possibilité d'une attaque. Ont peur d'être oppressés par d'autres, ont peur de ne pas être prospères, etc. Le Burundi a compris cela et a menacé le Rwanda à la moindre escarmouche. Chez nous, nous ne cessons d'enregistrer des pertes, que ce soit en vies humaines et en territoire, sans une riposte pouvant faire peur au Rwanda. Nous forçons à donner la paix à celui qui veut la guerre. Il est temps de changer de paradigme avant qu'il ne soit trop tard.
Je vais ajouter la réaction d'Innocent Adubango qui pense que la situation sécuritaire est plus qu'alarmante dans la partie est de la RDC. L'armée doit être dotée des moyens conséquents afin de contrer l'ennemi, de ne pas briser le dernier verrou qui est la cité d'Ouvira. Les autorités compétentes doivent être réalistes et comprendre que la souffrance de la population... Voilà, l'heure n'est plus au discours, je pense qu'il y a une phrase qui manque. Alors, plutôt, Rigel Miviri, votre réaction?
Déjà, peut-être que c'est important de revenir sur Washington. Donc, il faut vraiment rétablir de fait. En fait, l'accord RDC-Rwanda a déjà été signé depuis le 27 juin. Ce qui s'est passé à Kinshasa sur cet accord-là, à Washington sur cet accord-là en particulier, c'était juste l'intérimement, ce qui n'est même pas une procédure juridique. Donc en réalité, c'était un peu de théâtre pour que voilà, on prenne juste des photos avec les différents présidents. Mais il ne s'agit même pas d'une procédure juridique de ratification, parce qu'on sait qu'on est dans le cadre de l'article 214 où normalement il ne s'agit pas tout simplement de ratifier par le président. Il faut qu'il y ait une loi qui autorise la ratification et qui vienne du Parlement, pendant que ça ne s'est pas passé ainsi. Donc en réalité, cet accord-là n'est pas encore ratifié. Il est normalement encore pas en état d'être mis en œuvre. C'est important de le rappeler. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu d'autres accords qui ont maintenant été signés. Et c'est notamment le REIF, qui est un accord sur l'intégration régionale économique qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Cette fois-ci, celui-là a été signé par le président lui-même, donc le président congolais et le président rwandais. Ensuite, il y a eu aussi un autre accord économique stratégique avec les États-Unis, entre la RDC et les États-Unis. Ensuite, il y a eu aussi un autre accord entre le Rwanda et les États-Unis. Donc, il faut vraiment faire cette distinction entre les différents accords qui ont été signés et savoir que, en fait, l'accord du 27 juin avait déjà prévu qu'il y ait d'autres accords qui soient signés. Mais malheureusement, ces accords-là viennent d'être signés avant même que l'accord du 27 juin lui-même ne soit ratifié selon le droit congolais. Donc ça, c'est juste pour le droit international et pour revenir sur les irrégularités qui se passent et pour encore pour dire que, en fait, au-delà du fait que ces accords n'ont pas eu de l'impact sur la réalité sur le terrain, ces accords aussi restent problématiques. Par exemple, l'accord économique, il est le plus problématique parce qu'on a encore une fois bradé les ressources congolaises en offrant de clauses très favorables aux Américains, comme celles qu'on avait encore offert aux Chinois dans le cadre des contrats sino-congolais. Et c'est dommage. Et ce qui est grave, c'est que en contrepartie, on n'a même pas eu cet accord de défense qui pourrait être la garantie de reste des accords. Parce qu'en réalité, c'est ce que le président nous a dit avant, que on va offrir de minerais et en retour, on va avoir des garanties sécuritaires. Mais ces garanties sécuritaires-là, en tout cas, on ne les a pas dans les différents accords. Donc, on nous explique que non, les entreprises vont venir, et le fait que les entreprises vont venir, il y aura la sécurité. Mais quand vous lisez les accords, c'est beaucoup plus sur les Katanga. On parle de minerais qu'il n'y a pas au Nord Kivu. Au Nord Kivu, il n'y a pas du cobalt. On parle de Lobito. Lobito, c'est au sud de ce pays, c'est pas à l'est. Donc, je pense que c'est important qu'on soit transparent sur ce qui s'est passé à Washington. Et c'est important de dire qu'en fait, Washington, c'était les avantages américains, les États-Unis, ils ont avoué que pour eux, c'est du business. Et bien sûr, probablement, si nos négociateurs auraient bien joué les rôles, probablement qu'on pouvait aussi tirer notre épingle de jeu en termes sécuritaires. Alors, si on arrimait les accords économiques avec les accords sécuritaires. Mais alors, ce qui n'a pas été fait.
Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut pour
conclure,
que cet accord soit appliqué?
Cet accord appliqué, pas d'abord, parce que déjà, il faut qu'ils suivent la procédure normale, notamment par le Parlement pour être ratifié, mais que ça soit aussi une occasion de l'équilibrer ou d'échanger certaines clauses qui sont en contradiction avec la souveraineté de l'État congolais. Donc, on ne doit pas penser que c'est une messe qui est dite. Non, je pense que nos parlementaires doivent s'emparer de cette question et doivent jouer leur rôle pour que ça fasse quelque chose. Et en même temps, sur ce qui se passe sur le terrain, qui est notre terrain, comme je dis, il y a deux réalités parallèles. Ce qui se passe sur le terrain, c'est une réalité sécuritaire où on doit pousser pour que les négociations de Doha puissent permettre au minimum d'abord de geler le conflit là où il est. Et là où il est, malheureusement, maintenant, là, quand je vous parle, c'est ouvert.
Merci, Rigen Miviri. Mohamed Kassouala pense qu'il faut arrêter avec cette histoire des dialogues en Ukraine. Il y a aussi la guerre d'agression, mais jamais les opposants ukrainiens demandent le dialogue autour des Ukrainiens pour mettre fin à la guerre. Congolais, arrêtons de rêver. Alors, Willy Michiki, votre conclusion, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Hein. Willy Michiki, vous êtes en ligne? Je pense que nous l'avons perdu. Alors, vous avez la parole pour conclure, Augustin Bissimon. Vraiment, soyez concis.
Oui, pour conclure, madame, je voudrais ici que le gouvernement congolais comprenne l'importance d'un dialogue global et inclusif pour mettre fin à cette crise. Je sais de quoi je parle comme stratège. Madame, je l'ai dit ici, que la division que nous avons à l'interne peut affecter dangereusement l'armée au niveau des positions de front. Il faut aussi, madame, détruire les mensonges et la manipulation qui gagne de terrain. On nous a dit que si le Rwanda ne se retire pas, on ne signera pas cet accord les quatre. Madame, on a signé cet accord. Est-ce que le Rwanda s'était retiré avant qu'on signe? Non. Deux, on nous a dit qu'il n'y aura pas d'intégration des rebelles au sein de l'armée. Madame, l'accord reconnaît l'intégration, mais au cas par cas. Que ce soit au cas par cas ou pas, il y aura intégration. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'on doit cesser avec la manipulation. On doit cesser avec les mensonges. On ne peut pas tromper sa propre conscience ou tromper le peuple. Et donc, ici, pour finir, on a intérêt à convoquer les pirates. Et si on ne convoque pas les dialogues, madame,
oui,
on pourra convoquer plus tard, nous on ne viendra plus.
Merci. Alors, Willy Michiki, votre conclusion.
Oui, je voudrais dire d'abord aujourd'hui, le dialogue est inopportun, puisque le président Kagame lui-même a dit que c'est lui qui contrôle tous ces espaces-là sous les labels AFC et M23. Donc, s'il faut négocier, s'il faut faire le dialogue, on doit le faire avec Kagame. C'est clair, là, pour les Congolais, même si on se réunissait, on ne produira rien. D'abord, vous savez aujourd'hui que AFC et M23, il y a des mercenaires là-bas, des mercenaires érythréens, kenyans, ougandais, éthiopiens, et même, on nous a même parlé qu'il y aurait même des Polonais. Alors, mais je me demande maintenant, nous allons nous réunir avec qui pour parler de quoi? Donc c'est pourquoi nous pensons que sincèrement qu'il n'y aura pas de dialogue avant la fin de ce processus. Et je demande aux Congolais et Congolaises que la vraie armée, c'est la population. Que la population soit liée. C'est nous qui pouvons faire échouer. Puisque lorsqu'il y a de complicité en interne, c'est ça qui nous fragilise depuis que l'ennemi est manipulateur, l'ennemi utilise nos petites faiblesses, parce qu'aujourd'hui, nous ne devrions plus voir nos politiques, peut-être une majorité, nous devons voir d'abord les Congos. Et c'est tout à fait normal que les Congolais se mobilisent, surtout autour de ces accords de Washington, qui sont des accords promoteur d'avenir aujourd'hui.
Justement, parlons des accords. Les États-Unis d'Amérique et les pays européens exhortent le Rwanda et les M23 à cesser immédiatement leur offensive. Merci Willy Meshiki, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.